Bonjour Sylvie, je suis très heureux d'interviewer une des plus anciennes participantes de TAD. Pour mémoire, je rappelle que tu as été co-auteur de la grille d'évaluation des conditions de travail des tuteurs à distance et que tu m'as également accompagné dans la réflexion sur les services documentaires que pouvait offrir TAD. Dans un premier temps, peux-tu présenter le contexte professionnel dans lequel tu exerces comme tutrice?
Bonjour Jacques et merci de ton accueil. Bon, avant tout, je voudrais préciser que 80% de mon temps de travail est centré sur une activité de conseil dans le secteur documentaire et donc les activités de formation bon, récurrentes depuis 20 ans ne sont pas centrales dans mes charges de travail. Je reviens au contexte de tutrice. Il s'agit donc du domaine de la formation professionnelle continue pour les documentalistes des organisations ou des entreprises. Les mutations en cours liées à l'arrivée de l'Internet et au passage à la société de l'information bon, sont évidemment nombreuses et variées et en fait elles touchent tous les métiers. Mais en raison du poids nouveau porté à l'information, elles impactent particulièrement les professionnels de l'information, documentation et l'ensemble de ce secteur. Évidemment, le développement professionnel tient une place centrale, ou au moins le devrait. Donc, j'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour dire que c'est un des rares secteurs qui s'est doté à la fois d'un système de certification des personnes et d'un référentiel des compétences et des aptitudes au niveau européen et depuis déjà pas mal d'années. Dans ce secteur, la formation est structurée autour de formations initiales et pour les praticiens de formation continue, mais de courte durée, de type stage de 1 à 3 jours. Contrairement aux pays du nord de l'Europe ou anglo-saxons, les universités ou les écoles spécialisées développent beaucoup plus rarement des modules sur des sujets métiers précis et d'une ampleur significative et selon des modalités qui conviendraient à ces praticiens qui ont déjà des compétences dans ces domaines. Alors par ampleur significative, je veux dire des modules de plus de 100 heures pour leur permettre de réévaluer leurs compétences, d'approfondir des problématiques actuelles et de faire évoluer leurs pratiques. Bon, c'est dans ce cadre-là qu'en parallèle ou à la place de ce qui existe, l'idée des formations à distance pour ce public s'est développée.
Formation à distance, bien justement, quelles sont les raisons, les nécessités, les conditions qui t'ont amené à avoir des fonctions tutorales?
Bien, pour atteindre le plus grand nombre, si la formation à distance semble une bonne idée, cela ne suffit pas. Et l'étude du terrain au cours de mes activités de conseil, les retours d'expérience des uns et des autres, mais aussi mon propre parcours personnel, m'ont permis d'affiner un argumentaire sur l'intérêt et les limites de ce type de formation pour ces publics et sur la nécessité d'organiser un accompagnement de type tutorat. Alors j'ai eu la chance de pouvoir proposer en 2002, enfin pour un stage de 2 jours, dans le cadre d'une offre de l'association professionnelle du secteur, l'ADBS, une poursuite à un présentiel avec des travaux à distance tutorés, les personnes retournant dans leur environnement de travail. C'est une très bonne formule et la réussite de celle-ci nous a permis de l'envisager avec ce même public pour un autre projet d'une envergure plus large, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une formation de 100 heures, enfin équivalent 100 heures en présentiel sur 6 mois. Les apprenants ayant des horaires et des contraintes individuelles très fortes, nous avons envisagé un suivi continu plutôt à la carte, composé de 3 points de rencontre téléphonique qui s'ajoutent aux échanges via le forum, un jour en présentiel. En fait, ce présentiel, pour moi, constitue plutôt un frein au développement de cette formule auprès des publics visés, mais bon, ceci est une autre question. Pour les 2 premières sessions, nous venons d'initier une 3e session fin mars. Nous avons évalué en moyenne à un jour sur ces 15 jours équivalents présentiels pour le tutorat, incluant toutes les actions que je viens de préciser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis sûre qu'avec une plateforme adaptée, bon, un travail affiné sur les ressources, des outils d'auto-évaluation, ce chiffre pourrait être réduit. Bon, je précise cela pour des commanditaires qui pourraient nous écouter.
Selon toi, qu'est-ce qui fonde, au fond, hein, l'identité professionnelle du tuteur?
Bon, peut-être y a-t-il un biais dans la situation que j'évoque, car bon, je suis tutrice, mais j'ai été fortement impliquée dans la conception de cette formation et dans la production des ressources pédagogiques. Donc, bon, en tant que tutrice, je suis surtout méthodologue, animatrice, mais aussi père lorsque les apprenants évoquent des situations professionnelles vécues et que nous échangeons là-dessus. Les moments de formatrice sont en définitive plus rares et se limitent à des reformulations, essentiellement des reformulations, c'est-à-dire c'est l'écho, nous sommes l'écho pour les personnes. Et je veux dire que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas parce que les deux tutrices sont spécialistes des domaines abordés dans cette formation qu'elles peuvent en assurer cette fonction. Je persiste à dire que les formations, évidemment, devraient être montées par des collectifs de spécialistes, didacticiens et formateurs, mais qu'après, l'accompagnement individuel ou en petit groupe peut très bien être porté par des tuteurs dont la fonction d'accompagnement serait beaucoup plus valorisée.
J'aimerais maintenant t'interroger plus directement sur tes pratiques. Es-tu plutôt proactive, réactive, les deux ? Préfères-tu les outils de communication, synchrone, asynchrone ? Comment, à partir de quels outils exerces-tu le suivi des apprenants ?
Bon, je dirais que je suis plutôt proactive tout en étant attentive au mode de fonctionnement de chacun. Je regarde périodiquement le délai qui se passe entre nos contacts et ceci, quel que soit le type de contact, individuel, collectif, asynchrone, synchrone. Je relance, mais soit par l'envoi d'un message. Par exemple, les fêtes rythment le cours de l'année, ou alors le plus souvent en rebondissant sur une question posée, ce qui donnerait plutôt l'impression que je suis réactive, donc ça veut bien dire un peu des deux. Je dirais que l'organisation des travaux à rendre constitue un autre moyen pour nous de suivre les éventuels décrochages ou problèmes individuels. Bon, les outils sont simples, hein, forum, échange, tableur pour recenser les échanges. Mais je viens d'installer un chat, mais les horaires de travail sont trop disparates et je dirais aussi le groupe d'apprenants trop petit pour le moment pour que cela ait un sens.
Le support des apprenants sur le plan motivationnel est une des raisons d'être du tutorat. Comment procèdes-tu vis-à-vis d'un apprenant démotivé ? As-tu un cas particulier en mémoire ?
Bon, j'avoue que ce cas ne m'apparaît pas vraiment. Je dirais que les professionnels de notre secteur sont des publics volontaires, mais ils en veulent. Ce ne serait donc pas une démotivation sur le sujet de la formation, ce qui peut être le cas dans d'autres environnements. S'ils sont démotivés, ce serait face à l'ampleur de la tâche et à l'organisation dans leur temps, ce qui est très classique en formation à distance. Nous avons eu un départ de cette nature, mais c'était une personne qui travaillait dans un autre domaine que celui concerné par la formation et qui voulait en fait réinvestir ce secteur après l'avoir quitté depuis longtemps. Là, cela veut clairement dire que la formation vise les praticiens et malheureusement, nous n'avons pu rien faire sur ce plan-là. Parfois, peuvent surgir des problèmes plus personnels ou familiaux. On participe dans notre secteur aux exploits des enfants, aux arrivées des petits-enfants et aux déménagements, ce qui évidemment peut générer des conflits. On les sent venir, ces décrochages. Dans ces cas-là, bon, je suggère des échanges plus soutenus, une relecture plus personnelle des exercices, éventuellement un appel téléphonique complémentaire, mais qui est toujours succinct d'ailleurs, parce que c'est plutôt cette attention, cette empathie et pas tant le temps passé qui marque. Et dans deux cas auxquels je pense, j'ai dû passer peut-être 30 minutes sur un mois pour redonner le punch aux apprenants et leur redonner la forme pour poursuivre leurs travaux.
Comme d'autres, je fais un lien fort entre le développement de l'autonomie de l'apprenant et sa capacité à avoir une posture métacognitive. Est-ce que tu fais également ce lien ? Si oui, comment cela se concrétise dans ta pratique ? Proposes-tu par exemple des activités métacognitives à tes tutorés ?
Si la volonté et l'organisation de cette formation privilégient l'autonomie et un appui au développement de cette autonomie, bon, c'est vrai que les outils, par exemple, d'auto-évaluation sont encore trop faibles, si ce n'est inexistants. Il est vrai aussi que nous avions tablé dès le départ sur une aptitude des professionnels visés, qui étant majoritairement dans de très petites équipes, voire tout seuls, isolés professionnellement au sein de leur organisation, sont en règle générale des personnes autonomes et ont une pratique certaine pour organiser eux-mêmes leurs activités. Et justement, on pourrait peut-être penser qu'en situation de formation, ils aimeraient se laisser plus volontiers guider, et puis peut-être que justement ces activités métacognitives sont plus difficiles à formuler et à organiser. Alors, je dirais que l'étude de cas qui fait le tour des sujets de formation rythme le parcours, mais pour le reste, les apprenants ont une totale liberté et nous n'imposons pas d'ordre au rendu des exercices. Du coup, cela peut complexifier leur vision de leur apprentissage, leur donner une impression d'émiettement et rendre encore plus urgent un outillage pour accompagner ce travail sur la cible. Nous sommes partis du principe que leurs compétences actuelles et les sujets d'intérêt liés à leur contexte constituaient de bons guides. Nous proposons simplement une représentation schématique de la formation qui sert de référent et de cible, et une liste tout simplement sous Excel des sujets d'apprentissage qu'ils peuvent utiliser au fil du temps pour, je dirais, apprécier leur avancée. Mais cela reste tout à fait artisanal et des progrès énormes sont à faire. Je rêve d'ailleurs dans ce contexte de pouvoir proposer un portfolio électronique personnel.
Utilises-tu les traces laissées par les apprenants sur les plateformes de e-learning? Si oui, quelles sont celles qui te sont le plus utiles? Et utiles à quoi?
Je dirais oui, j'utilise des traces, toutes les traces, mais en fait j'utilise aussi les non-traces, parce que l'absence de traces est tout aussi importante que leur présence. Mais la formation à laquelle je fais référence, et bon, la plateforme associée, ne laisse pas beaucoup de traces en dehors du dépôt des travaux et des messages sur le forum. Par contre, les travaux proposés, qui supposent une activité importante et par ailleurs externe à la plateforme, et les résultats de ces travaux, nous permettent de mieux apprécier la situation. Donc, somme toute, des traces très indirectes et très classiques.
Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées dans ta pratique tutorale et comment les as-tu surmontées ?
Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais je trouve que la plateforme que nous avons, robuste, certes robuste, mais rustre sur le plan fonctionnel, ne favorise pas les relations entre apprenants et entre apprenants et tuteurs, elle ne favorise pas la dynamique et les échanges. Pour faire bref, l'image que j'ai de cette plateforme est une salle de classe bien fermée, sans armoire où ranger nos documents, ce qui pour des documentalistes constitue vraiment un frein, et je dirais même sans fenêtre, j'ai tout dit. Étant formatrice aussi dans le domaine du travail de groupe, je suis un peu consternée par cette situation, d'où les modalités complémentaires d'échange qui ont été proposées. Pour le reste, pas de problème particulier, si ce n'est un outillage par trop artisanal. Et puis, à ce jour, rien à l'horizon pour améliorer la situation, faute d'investissement.
Pour finir cet entretien, peux-tu nous dire quelles sont les raisons qui te font poursuivre cette activité de tutrice ?
Bien, à chaque évaluation, les retours de stagiaires me confortent dans l'idée que c'est une voie riche et tout à fait adaptée au public visé, public qui a des besoins intenses de formation et en même temps des contraintes très fortes. Et dans ce cadre-là, de contraintes, le tuteur, avec son rôle d'accompagnement, d'appui, je dirais de... peut-être de conseils, mais pas forcément, me convient tout à fait, et je dirais que les évaluations me redonnent à chaque fois le dynamisme pour poursuivre dans cette voie.
Merci à toi Sylvie pour cet entretien qui constitue selon moi un très bon exemple d'activité de mutualisation et qui, je l'espère, donnera envie à d'autres tuteurs de partager prochainement leur expérience tutorale. Merci encore.